Et justement, en parlant d'informations, nous retrouvons le journal de Didier Arnoux. Bonsoir Didier.
Bonsoir Cécilia, bonsoir à tous. On débute avec le procès de l'assassinat de Jean-Luc Codaccioni et Tony Kilikini en décembre 2017 sur le parking de l'aéroport de Porrette. Le procès s'est ouvert cet après-midi devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence, un moment très attendu pour un procès fleuve, il doit durer 2 mois. Première audience, premier regard en direct du palais de justice d'Aix, on retrouve Marion Galland.
Oui Didier, l'audience a finalement débuté à 14h30 au palais Montclar. Les accusés ont pris place dans un box vitré, un box agrandi pour l'occasion, pour qu'ils puissent accueillir les 9 accusés détenus ainsi qu'une escorte policière conséquente. En ce premier jour, en raison de la présence de tous les avocats, de l'ensemble des jurés et des témoins, le public très nombreux n'a pas pu prendre place dans la salle d'audience. Même les familles ont en grande partie été redirigées dans une autre salle située à quelques centaines de mètres dans un autre bâtiment. Dans cette même salle où le procès est retransmis sur 4 écrans se trouvent également les journalistes. Nous sommes une quinzaine environ. Autant vous dire que l'ambiance y est assez pesante. Dans la salle principale, les accusés sont apparus pour la plupart plutôt souriants. Christophe Guazé, dit vêtu d'un sweatshirt gris clair. Son frère Richard, t-shirt blanc et veste noire. Dans le box, les neuf accusés qui comparaissent détenus sont assis côte à côte. En bout de rangée, un peu à l'écart, se trouve Cathy Châtelain, la gardienne de prison, en jean et pull noir surmonté d'une veste beige. L'audience a débuté par une demande de disjonction, demande acceptée. Marine Andréagne, dont l'état de santé ne permet pas d'assister au procès, sera donc jugée lors d'une prochaine session de la cour d'assises. À noter que lors de l'appel des témoins, de nombreux protagonistes se sont fait porter pâle. D'autres n'ont tout simplement pas répondu aux convocations. Certains ont même fait l'objet de recherches policières. Enfin Didier, les parties civiles sont aussi absentes. Elles ne devraient pas du tout assister au procès, à l'exception de Michel Bastiani, lui aussi absent, mais représenté par une avocate.
Merci Marion. Marion Galland en direct d'Aix-en-Provence. À Ghisonaccia, 3 engins de chantier ont été incendiés la nuit dernière. Ce sont les appareils d'une entreprise locale qui travaillait sur le stade. Les engins ont été totalement détruits. Le feu a éclaté vers minuit. Les pompiers ont mis 2h30 pour en venir à bout. L'Union syndicale des retraités CGT de la Haute-Corse est à bout. Elle s'inquiète du déconventionnement d'une partie des médecins de la Corse. Une action qui aura pour conséquence d'attaquer encore davantage le pouvoir d'achat des plus précaires qui devront assumer le reste à charge et hésiteront ainsi à se soigner, estime le syndicat qui demande à l'ARS de prendre des dispositions pour que tous les patients soient traités de manière égalitaire en termes de soins et de tarification et au-delà de prise en charge. En football, si cette fin de saison est plutôt en demi-teinte pour les clubs corses, n'est pas le cas de tout le monde, notamment du Bastiais Grégory Lorenzi, qui n'en finit plus de surprendre avec son club du Stade Brestois. 3e de Ligue 1, Brest est aujourd'hui en course pour disputer la Ligue des Champions, un véritable exploit pour le 15e budget de Ligue 1 et pour son directeur sportif. Grégory Lorenzi en poste depuis 15 ans en Bretagne, l'ancien défenseur du Sporting et le grand patron du secteur sportif. C'est lui qui est à l'origine de ses performances incroyables. L'invité du MacFoot de Jean-Philippe Thibaudeau, Grégory Lorenzi est revenu sur cette magnifique saison.
À titre personnel, j'ai pris la direction sportive il y a 9 ans. On avait 8 joueurs en Ligue 2, on n'avait pas d'entraîneur, on n'avait pas de terrain d'entraînement. Et c'est vrai que j'ai eu la chance que mon président m'a donné les clés du camion, comme on peut le dire, m'a fait confiance et on est parti sur un projet avec du long terme. Alors bien évidemment que le but n'était pas forcément de viser la Coupe d'Europe, mais c'était de vouloir, on va dire, installer le club en Ligue 1, de pouvoir progresser. Et au fur et à mesure qu'on a réussi à se laisser le temps, à travailler, arrivent des saisons magiques, exceptionnelles, comme c'est arrivé cette année, où il y a une synergie, il y a une symbiose, c'est-à-dire que on a des gens dans le club qui sont aussi à leur place. Personne n'interfère dans les rôles de chacun. Il y a un organigramme qui est très très bien défini et tout simplement du moment où on laisse les gens travailler dans leur environnement, ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive à ce genre de choses. Aujourd'hui on a envie de finir du mieux possible pour pouvoir évoluer en Ligue des Champions l'année prochaine.
Oui, vous pourrez retrouver Grégory Lorenzi et notre MacFoot à partir de 20h sur France Bleu RCFM, la radio. Quand vous voulez un podcast sur Bleu RCFM. Et puis il aimait le foot beaucoup, peut-être moins que les livres, mais il vouait un culte au rectangle vert. Bernard Pivot est mort chez lui, aujourd'hui à Neuilly, il avait 89 ans. Bernard Pivot, ce sont des émissions apostrophe, bouillon de culture, c'est aussi les dicodores, la dictée, c'était un amoureux des mots et des lettres.